Nous lisons dans Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Nous commençons directement au verset 30, même si l'histoire commence avant cela. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient en son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors c'est un des textes, un des passages un peu difficiles de la parole de Dieu, parce que nous voyons des gens qui suivaient Jésus-Christ pendant un moment, donc au point d'être appelés disciples, lâcher Jésus-Christ, parce qu'il a dit des phrases dérangeantes. Et ce que je veux nous partager, c'est que le Seigneur Jésus, c'est un vrai dérangeur dans nos vies. Il va déranger. Et s'il a dérangé ses premiers disciples, il nous dérangera nous aussi. Donc il n'y a pas de plus grand disciple. Tous les disciples, il n'y a qu'un seul qui est grand, c'est le maître. Le reste, c'est des disciples. S'il a fait ainsi avec ses apôtres, ses premiers disciples, il va déranger aussi nos vies. Et là, Jésus-Christ non seulement dérange les Juifs, et donc il va déranger les païens à notre époque, mais nous lisons qu'il dérange en même temps ses propres disciples. Et comment on voit qu'il dérange les Juifs ? Ben, il leur dit « Je suis le pain venu du ciel ». Alors ils disent « Mais ce n'est pas possible, comment lui peut être le pain venu du ciel ?» Alors ils disent « Mais attends, nous on a connu un véritable pain, c'est la manne ». Il dit « Mais la manne, quand ils ont mangé la manne, ils sont morts. Moi je suis le véritable pain. Celui qui me mange ne mourra point. » Jésus veut dire par là, pour vivre, il faut manger. Mais la vie qui vient du manger ne meurt un jour. Maintenant, pour vivre éternellement, il faut aussi manger. Puisque un des principes qui fait vivre les êtres vivants, c'est le fait de se nourrir. Et Jésus dit, c'est le même principe pour les êtres célestes. Il faut être nourri. Mais nourri de quoi ? Mais nourri de la source de la vie. C'est Jésus lui-même. Il dit, si tu crois en moi, si tu acceptes que je suis mort pour toi à la croix, eh bien là, tu vivras éternellement. Si tu intègres ma vie, tu prends ma vie, donc tu la manges. C'est pourquoi Jésus dit clairement, il faut me manger, chair et sang, donc tout mon être. Si tu me manges, si tu m'intègres en toi, eh bien tu vivras éternellement. C'est une intégration totale que Jésus-Christ réclame. Et nous voyons que ça a déstabilisé. Déjà, qu'il rabaisse en quelque sorte, si on peut le dire, la manne, déjà ça a dérangé les Juifs. Ils étaient dérangés de voir qu'eux, ils ont toujours cru qu'ils ont vécu le plus grand miracle. Et Jésus leur dit que lui, c'est lui le véritable pain descendu du ciel. La manne n'a permis que aux gens de vivre 40 ans. Mais lui, sa vie à lui, permettra aux gens de vivre éternellement. Il est venu se donner aux humains. Afin que dans plusieurs facettes, première facette, la facette du salut, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix à notre place. Alors que nous étions condamnés, il a pris nos péchés, il est mort à la croix. Déjà, c'est donner sa vie. Il a dit, je donne ma vie. Et dans tout ce que nous allons faire, bien-aimés, dans ce monde, vous allez voir personne ne donner sa vie pour vous, ni une entreprise donner sa vie pour vous. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous. Il a laissé qu'il soit condamné à notre place alors que c'était nous les fautifs, lui qui était juste. Et croire en cela, c'est déjà manger Jésus-Christ. Le deuxième volet, c'est lorsque nous acceptons la parole de Jésus, nous l'intégrons dans notre vie, nous intégrons la vie de Jésus, nous observons Jésus, nous le ressemblons. C'est comme si nous le mangeons parce que nous l'intégrons dans notre vie. Et ça aussi, c'est le manger. Donc, le chrétien a à faire ces deux volets-là. Un, accepter la mort de Jésus pour lui, à le remercier pour cela, et ensuite, à adopter le mode de vie de Jésus-Christ. C'est là qu'il confirme qu'il est vraiment quelqu'un qui a intégré Jésus-Christ, qu'il a mangé. Et Jésus-Christ dit à tout homme sur la terre, il dit, mais il faut me manger, moi. si tu n'intègres pas ma vie, si tu n'acceptes pas que je suis mort pour toi à la croix, si tu ne vis pas selon la logique de cette mort à la croix, parce que Jésus-Christ n'est pas mort inutilement, il est mort pour nous donner la possibilité d'une nouvelle vie dans la bonté, la paix, la sainteté. Alors, quelqu'un qui va juste accepter que Jésus-Christ est mort pour lui et qui continue sa vie ancienne n'a rien compris. C'est comme si on te libérait d'une prison et tu y retournes. Ton cousin, il fait la chirurgie esthétique pour te rassembler. Et lors d'une visite en prison, il prend ta place. Et toi, tu sors pour que tu sois libre. Et puis, deux jours après, on te voit revenir à prison. On dirait, mais ton cousin, il a fait tous ses efforts pour rien. C'était pour que tu fuis, pour que tu ailles loin, pour que tu vives. Et Jésus-Christ n'est pas mort à la croix par distraction. Il est mort pour nous donner une possibilité d'une nouvelle vie, étant pardonné par le Père. Et après avoir été pardonné, Dieu nous donne une nouvelle occasion de vivre. Mais quelle vie ? Mais la vie opposée à celle qui nous avait condamnés. C'est ça, manger Jésus-Christ. Tu acceptes d'être sauvé par lui et tu acceptes de marcher selon lui, donc selon sa parole, selon son exemple à lui-même. C'est ça, le manger. Mais Jésus-Christ a fait exprès de ne pas expliquer à 100%. Il a dit, il faut le manger. Et ça a perturbé les Juifs. Déjà, les païens ont dit, là, c'est trop. Cet homme est bizarre. Alors, non seulement les païens ont été perturbés, mais ses propres disciples ont été perturbés. Jésus, c'est quelqu'un qui va toujours déranger, puisque Dieu l'a dit dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Et donc, dans notre vie, que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu te dérangera. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Dieu nous dérangera. Là, c'est un exemple qu'on vient de donner de dérangement. Mais c'est l'exemple, un des exemples les plus durs. Parce que les propres disciples de Jésus le quittent. Mais Jésus demande à Pierre, mais pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, en tout cas, nous, on a compris que tu étais le Messie. C'est vrai, là, c'est compliqué. Ce dans quoi tu nous amènes, ce que tu dis là, c'est compliqué. Mais nous, on a su que tu es le Messie. Bon, on n'a pas le choix. On te suit. Il n'y a que toi qui as des paroles qui peuvent sauver, qui peuvent transformer une vie. Nous te suivons. Mais les autres ont été dérangés complètement. Parce que Jésus disait qu'il fallait le manger. Alors, bien-aimés, sachons-le, nous serons dérangés. Combien de fois nous sommes dérangés lorsqu'on dit « Ah, mais j'ai compris déjà la leçon de l'épreuve, pasteur, pourquoi ça continue encore ?»« Oui, mais j'ai attendu 2 ans, pourquoi ?» On est toujours dérangés. Paf ! Une roue. Crevé. Il faut changer, tu te mets en retard, mais Dieu, comment il m'a laissé tomber comme ça, voilà. Un échec dans un examen, dans un concours. Ah, mais comment Dieu me laisse tomber? Il y a toujours des choses qui font que on est dérangé. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes censés connaître Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais malgré tout, quand les événements arrivent, ben, on se plaint, on se lamente. Donc tout simplement parce que nous refusons d'être dérangés. Mais le Seigneur nous dérangera et je vais nous donner des raisons. Il va le faire. Et nous prenons encore un autre exemple où il a vraiment perturbé les païens dans Luc au chapitre 19. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas déranger les païens. Ils veulent faire tout pour ne pas déranger. Non, le Seigneur dérangera toujours. C'est clair. Il ne faut pas chercher à déranger les gens. Mais sachons que la façon dont Dieu va nous se servir de nous, ça dérangera toujours. Luc 19, il est écrit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà un autre dérangement. Jésus-Christ qui va manger ses Zachée, un publicain considéré comme un escroc, un collecteur d'impôts considéré comme un escroc. Tout le monde est dérangé. Nous lisons clairement au verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors quand on dit tous, il y a elle et les païens, même d'autres voleurs eux-mêmes, ils sont scandalisés. Il y a aussi les religieux qui sont scandalisés. Les gens de synagogues sont scandalisés. Mais comment il peut aller chez un païen? Mais bien aimé, à la sortie, c'est eux qui étaient plus païens que Zachée eux-mêmes, quoi. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Nous, ce qu'on peut voir avec le regard humain, Dieu voit avec son regard à lui qui est le véritable regard. Il connaît l'intérieur. C'est clair. Aujourd'hui, tu regardes les fleurs, tu ne verras aucune différence. Mais l'abeille, avec ses yeux, elle sait quelle est la fleur femelle, quelle est la fleur mâle. Parce qu'il y a une différence. Mais nos yeux ne sont pas aptes à voir ces couleurs-là que seules les abeilles voient et qui leur permettent de savoir la différence entre les fleurs, où aller, dans quelle fleur aller. Mais nous, on ne voit pas de différence. Nos yeux sont limités. Et donc, Dieu sait ce qu'il fait parce que lui, il est capable de tout voir. Nous ne voyons pas tout. Dieu peut voir un cœur, lire un cœur, comprendre ce qu'est un cœur. Nous ne voyons pas cela. Nous ne voyons que la surface, l'extérieur. Et une fois de plus, Jésus a dérangé. Il est écrit tous. Même ses disciples devaient dire, ah, mais bon, par obéissance, ils ont suivi. Bien-aimés, il faut comprendre que l'intelligence humaine et la logique de Dieu n'iront jamais ensemble. Parce que l'intelligence humaine se base des renseignements que lui donne les sens et ses raisonnements. Mais alors que Dieu a des capacités, la capacité à lire l'esprit, à lire le cœur et à résoudre les problèmes du cœur et de l'esprit. C'est que l'intelligence humaine ne peut pas résoudre. Dieu est tout puissant, mais l'homme est limité. Et donc forcément, les réflexions des humains seront loin de celles de Dieu parce que Dieu réfléchit dans sa toute-puissance, toi tu réfléchis dans ta limitation. Forcément, on n'aura pas les mêmes raisonnements. Dieu a donné son fils à la croix pour que tout le monde soit sauvé. Donc son raisonnement ne sera pas le même que quelqu'un qui ignore cela, qui voit un malfaiteur et qui le considère comme un danger public. Dieu, lui, il voit l'éternité, mais nous voyons la terre. Nous voyons les biens terrestres. Donc, nos raisonnements ne peuvent pas se ressembler. C'est pourquoi, nous, chrétiens, nous devons apprendre juste à nous soumettre. Comme les disciples le faisaient, ils se sont dit, oh, mais on va chez un païen, mais bon, on n'a pas le choix. Bon. Si le maître, lui, qui est pur, bien aimé, Jésus savait ce qu'il faisait. Parce que du matin au soir, il était avec eux. Hein. Ils ne l'ont jamais vu injurier. Ils ne l'ont jamais vu mentir. Il était toujours droit. Mais quand quelqu'un qui est très droit comme ça, il te dit, suis-moi, on va chez un païen. Le minimum, c'est dire, ah, entre moi et lui, c'est lui qui est pur. Bon, on ne sait pas où il m'amène. Bon, en tout cas, c'est lui qui est pur. On suit, mais bien aimé, les hommes d'aujourd'hui. Oh, mais ça fait 5 ans quand même. Qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer? Oh, entre toi et le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'aime le plus. Il t'aime même plus que toi, tu t'aimes. Parce qu'il a donné son fils. Aujourd'hui, toi, si tu as un bobo à la tête, on doit te couper 3 doigts pour essayer que tu aies moins de maux de tête. Ah, bien aimé, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont accepter qu'on leur coupe juste leurs 3 doigts. On dit non, bon, je préfère boire les aspirines, avaler les aspirines. Ça va, mais... On dit non, non, le médecin te dit non, si on coupe 3 doigts, ça va. Tu n'auras plus tellement de maux de tête. Bon, tu dis 3 doigts, à l'école, au travail, qu'est-ce qu'on... Alors, et tu es même incapable de te donner toi-même, pour toi-même. Mais Dieu a donné son propre fils. Dieu va nous déranger dans le but de nous soumettre totalement. Donc je commence les raisons, bien-aimés. Les raisons, c'est de comprendre que Dieu est le chef, il est souverain, il est tout-puissant, il ne se trompe pas, et qu'on doit le suivre aveuglement. C'est cela. La première raison, c'est celle-là, la souveraineté de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous allumez la radio, le domestique qui passe dit, mais patron, pourquoi tu allumes la radio? Tu dis, non, je vais écouter les infos. À un moment, tu mets la télé, oh, mais patron, tu changes, tu mets la télé. Bon, je vais regarder un match. Tu lui expliques. Après un moment, tu mets les chaussures. Oh, patron, tu veux sortir? Et tu vas dire, mais attends, entre moi et toi, c'est à qui tout ça? C'est mes chaussures, tu es domestique, tu es employé, c'est toi qui veux maintenant me gérer. Bien-aimé, Dieu va vouloir qu'on sache qu'il est souverain. Nous, les chrétiens, nous avons peur de cela devant les païens. Oh, mais les païens vont dire, si on dit que c'est la souveraineté de Dieu, ils vont dire, mais les méchants, si tu es dérangé, c'est ton problème. Dieu, lui, il est conscient de la logique simple. C'est que c'est lui qui a tout créé, c'est à lui. Toi, tu veux changer sa logique, bien-aimé, réfléchissons. Réfléchissons, tu es en train de peindre ta voiture, de changer, c'était gris, tu es en train de mettre ça vert. Un passant vient dire, mais monsieur, la couleur qui est là, ce n'est pas bon, c'est l'ancien. C'est à moi. Tu vas dire tout simplement, c'est à moi. Donc Dieu voudrait qu'on comprenne une fois pour toutes qu'on lui appartient. Parce qu'il a tout créé. C'est à lui. Maintenant, c'est lui qui veut interpréter ça comme s'il est mauvais. Dieu, ce n'est pas son problème. Il dit, c'est toi qui es malhonnête de chercher des problèmes, alors que c'est à lui. C'est toi qui es malhonnête en créant des problèmes. Lui, il veut qu'un homme ait 1m60. Toi, tu en fais un problème. Entre toi et lui, qui est le problème? C'est toi le problème. Parce que tu résistes à ce qui n'est pas à toi. Lui, il est tranquille. C'est pourquoi il est clairement écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il est écrit aussi dans Jacques 1, que la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Tu as beau te fâcher, beau manifester que Dieu a tort, Dieu va rire, il va rigoler. Il sait que dès le départ, les dés sont pipés, tout est faussé. C'est-à-dire que tu commences un raisonnement déjà dans le faux. Tu réfléchis sur ce qui n'est pas à toi. Tu réfléchis sur ce qui est à quelqu'un d'autre. Et donc Dieu voudrait que tout humain comprenne sa souveraineté. Nous lisons dans Romains 11, 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Qu'est-ce qui est écrit ? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Un mauvais président, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Moi, je fais partie des gens qui étaient tout le temps en colère contre les présidents. Mais quand j'ai lu tout ça, j'ai dit, mais je me trompais. Je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Ce que moi, je dois faire, c'est chercher Dieu. Chercher sa grandeur dans ma vie et dans mon pays et dans mes amis, dans mes voisins. Mais je ne dois pas chercher à piloter Dieu. Ce que moi j'ai à faire, c'est de prier Dieu, mais pas de le piloter. Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, il est bon. Mais nous, nous avons en nous une substance, une matière qui refuse que Dieu soit le chef. C'est la même matière qui a fait qu'Adam veuille devenir comme Dieu. Nous avons hérité de cela. Et quand les circonstances nous sont défavorables, nous voulons piloter Dieu. Mais Dieu rit. Il dit, mais il commence mal. Il a oublié que c'était tout est à moi. Quand les enfants, les biens, les moutons, les maisons de Job ont été détruits par les catastrophes naturelles et les ennemis, qu'est-ce que Job a dit? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. C'est tout. Il dit, mais c'est lui qui avait donné. Donc, c'est le bien-aimé, si on veut aller jusqu'au bout avec Dieu, on doit comprendre sa souveraineté. C'est un élément capital. Je suis à Dieu, ma maison est à Dieu, mes enfants sont à Dieu, mes cheveux sont à Dieu. Si tu as prié pour que ça pousse, ça ne pousse pas, tu dis, bon, dans tous les cas, c'est Dieu a voulu que j'aie des cheveux bizarres, mais je les aurai, au nom de Jésus. Voilà. S'il faut les avoir, je les aurai, parce que je suis à lui. Il faut bien qu'il y ait, comme les gens disent, il faut bien qu'il y ait du tout dans le monde, voilà. Je les aurai, pour la gloire de Dieu. C'est ça, bien-aimé. On prie pour avoir de plus beaux cheveux, mais on accepte ce qu'on a aujourd'hui. C'est cela, bien-aimé. Mais quand on est tout le temps à bouder, à dire, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, Job n'a pas fait cela. Il a dit, Dieu a pris mes enfants, il a tout pris. Moi, j'ai été correct. Si j'ai tous ces problèmes, c'est Dieu qui permet. Parce que je ne crois pas que ce soit mon péché, sinon il me l'aurait dit. Alors que son nom soit béni. Maintenant, s'il me dit que c'est un péché, je vais demander pardon. Mais s'il ne me l'a pas dit, que son nom soit béni. Un accident. Parfois, tu es quelqu'un qui respecte tout le temps la vitesse. Un jour, juste un tout petit peu, tu as exagéré, c'est là qu'on t'attrape. Tu dis, ah, mais non. Mais Seigneur, moi, j'ai été honnête. Pendant tout le temps, d'ailleurs, on connaît même certains, on dit, mais un tel n'a jamais été attrapé alors que lui, il dépasse. Et on commence à comparer. Mais bien-aimé, vos pensées, nos pensées sont loin de celles de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il veut faire de toi quelqu'un qui va présenter au ciel pour dire, voilà un enfant qui me respecte jusque dans le col de la route. C'est pourquoi il permet qu'on t'attrape comme ça. Parce qu'il veut. Il veut de toi comme modèle, comme exemple. Mais toi, tu es là à comparer, mais j'ai à payer 35 euros, mais l'autre, lui, il dépasse, on ne l'attrape pas. Ce n'est pas ton problème. Toi, saisis l'occasion pour te conformer à Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est très important. Tout est à Dieu. Dieu est le chef. Il faudrait qu'on comprenne ça. Et il va nous déranger. Dans ce sens-là, quand Jésus leur dit, on va chez Zachée. Oh, c'est pas grave. Vous pouvez parler, dire tout ce que vous voulez. C'est moi qui ai tout créé. C'est ma terre, c'est mes humains. Je fais ce que je veux. Voilà. Quand le Seigneur a dit à Pierre de tuer et de manger des bêtes, Pierre a dit, mais c'est interdit. Et Dieu lui a dit, c'est ce que moi j'ai interdit qui est interdit. Là, moi, je t'ai dit de manger. Bien-aimé. Donc, c'est sa souveraineté. Mange. Voilà. Bon, ce n'est pas une raison pour que certains disent, bon, moi, je vais frauder parce que j'ai vu ça avec Dieu. Non, bien-aimé. Donc, ce qui est écrit, c'est écrit. Et le cas de Pierre, c'était une exception par rapport à la vérité que Jésus-Christ a portée, que ce n'est pas ce qu'on mangeait qui était un problème, c'est ce qui sortait de la bouche qui était un problème. Donc, il ne faut pas mélanger les pinceaux, commencer à dire, bon, je vais commettre tel péché. Dieu a décidé que c'était bon pour moi. Non. Comme aujourd'hui, certains pasteurs qui sont polygames, ils disent que Dieu veut, leur ministère ressemble à celui de Salomon. Donc, c'est faux, bien sûr. Et donc, nous devons, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Deuxième élément, bien-aimé, le Seigneur voudrait nous purifier de toute forme de confiance personnelle en soi-même. De toute forme de logique de planification. On a planifié les choses comme ça. On espère les choses ainsi. Il faut que ça se passe comme cela. Donc nous devenons presque nous-mêmes Dieu. Et nous avons nos nonologique. On a dit dans telle place, je pense que telle personne doit y être, dans telle autre, ceci, cela. Et on veut que ces logiques-là soient respectées. Donc nous, le Seigneur va briser nos plans, notre planification, parce qu'il ne veut pas qu'on se repose sur notre intelligence, sur notre façon de faire les choses. C'est pourquoi, à chaque fois, il déstabilise. Parce que nous courons vers la stabilité. Nous voulons faire que les choses, telles qu'on les a programmées, se fassent de la même manière. Comme ça, nous contrôlons. Nous refusons les surprises. Nous voulons que tout soit calculé et soit fait selon les calculs prévus. J'ai prévu d'acheter ceci pour arriver à la fin du mois. Je ne veux pas des imprévus. Et quand les imprévus viennent, nous sommes déstabilisés. Pourquoi nous sommes déstabilisés? Parce que nous nous sommes considérés comme notre propre solution, notre propre pourvoyeur, notre propre soutien. Et le Seigneur va déstabiliser ça, afin qu'on apprenne à compter sur lui. Ce n'est pas parce que Dieu est orgueilleux, pas du tout. Il fait ça pour notre bien. Parce qu'il sait que si nous apprenons à compter sur nous, le diable nous aura. Il nous piégera facilement. Et lui ne pourra rien faire parce que nous, nous comptons sur nous-mêmes. Mais si nous comptons sur lui, lui peut faire des miracles. Si nous comptons sur nous, nous, nous sommes limités. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Même un patron ne peut pas gérer le cœur de son ouvrier. Mais alors que Dieu, lui, peut gérer les cœurs. Donc si je compte sur Dieu, il va gérer les cœurs des ouvriers, si je suis un patron. Dieu voit cela. Mais quand je compte sur moi-même, je peux tout gérer, mais je ne peux pas gérer les cœurs des gens. Je ne peux pas gérer les gens que je ne vois pas. Un enfant, ton enfant à l'école, comment tu peux gérer ça? Alors donc, si tu es quelqu'un qui veut tout contrôler, mais tu seras tout le temps inquiet puisque ton enfant est à l'école. Mais si tu te confies en Dieu, les choses sont tranquilles. Dieu va nous déranger pour nous sortir de cet esprit de stabilisation, de stabilité. Je veux bien expliquer cela. Donc ça ne veut pas dire que nous devions être instables dans nos pensées. Non, il faut qu'on soit ferme dans l'amour pour Dieu. Mais lorsqu'on veut maintenant construire des structures stables pour se passer de Dieu, Dieu va nous déstabiliser. Il va nous agiter. On prend un exemple même dans Jean 6, toujours. Dans Jean 6. À partir du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors, il y a des gens qui attendent de manger. Jésus-Christ dit à son disciple, bon, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, mais 200 deniers, même de fortes sommes d'argent ne suffiraient pas. Et il y a quelqu'un qui dit, on a 5 pains et 2 poissons, mais ça ne va rien faire, il y a 5000 hommes. Jésus veut nous apprendre que compter sur nous-mêmes conduit toujours à quoi ? Au blocage. Lorsqu'on compte sur nous-mêmes, nous échouerons forcément. Nous comptons sur notre puissance de prier, tu vas échouer. Tu comptes sur ta capacité à aimer, tu vas échouer. Tu comptes sur ta capacité à distribuer les biens. Un jour, tu vas te trouver en situation où tu auras honte de toi-même. Tu vas cacher un bien. Ou bien tu vas voler même, toi qui es distributeur. Bien-aimé, le Seigneur veut nous montrer que nos propres moyens sont limités. Alors il va nous perturber par des situations qui démontreront que nous sommes limités. Afin qu'on fasse quoi ? On crie à lui. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur va déranger. Nous devons nous attendre à cela. Et troisièmement, le Seigneur va déranger pour augmenter notre foi. Il va nous perturber parce qu'il veut augmenter notre foi. Comme dans ce même passage de Jean 6, le Seigneur voulait aussi augmenter leur foi. Qu'ils voient, qu'ils croient maintenant à l'invisible. Il n'y a rien. Dorénavant, vous devez croire que dans rien, je peux produire quelque chose. Le Seigneur va déranger parce qu'il va nous envoyer des situations que nos moyens ne peuvent pas résoudre afin de nous obliger par le concours des choses à manifester la foi en lui. Il est écrit quoi dans Hébreux 10, 38 ? Le juste vivra par la foi. Ah, donc le Seigneur va déranger nos vies afin qu'on exerce la foi. Mais quand est-ce qu'on exerce la foi ? Mais lorsqu'on est limité, lorsqu'on est dérangé. Quelqu'un ne peut pas vouloir exercer la foi pour sortir de cette salle. Mais si on dit au feu, et tu tournes les yeux là-bas, c'est déjà rempli de feu, là, tu te dis, pour sortir d'ici, j'aurais besoin de beaucoup de foi. Donc, puisqu'il faut peut-être sauter par là, donc, c'est là que tu t'agenouilles. Seigneur, fais-moi sortir. La foi que tu cachais va être exercée en ce moment-là. Donc, le Seigneur voudra nous amener à une plus grande foi par le dérangement. Un impôt inattendu, paf, les comptes vides. Le Seigneur voudra t'amener à une plus grande foi. Mais s'il ne te dérange pas, toi-même, tu n'oseras pas. Nous sommes comme ça. Nous aimons ce que nous contrôlons. Nous aimons ce que nous gérons. Alors le Seigneur, pour nous pousser à aller plus loin dans la foi, il va nous déranger, il va nous amener des situations que nous n'arrivons pas à gérer, que nous n'arrivons pas à contrôler, afin qu'on mette notre foi en lui et qu'en exerçant cette foi, nous croissions spirituellement. C'est cela, bien-aimé. Nous devons nous attendre à des dérangements. Le Seigneur est un vrai dérangeur. Parce qu'il sait que l'homme aime une fausse stabilité qui va le conduire à sa perte. Beaucoup d'églises meurent à cause de la recherche de la stabilité. On veut que tout soit carré, tout marche bien, à tel point qu'on oublie que notre vocation, c'est de chercher le Seigneur. Maintenant, notre vocation, c'est de faire une bonne église. Non. Notre vocation, c'est de chercher le Seigneur. Et beaucoup de problèmes, le Seigneur lui-même peut résoudre. Alors, on veut tout résoudre, tout faire bien par nos propres moyens et le Seigneur va nous déranger. Le Seigneur voudra qu'on apprenne à nous reposer que sur lui. Donc, une foi qui nous amène à nous reposer que sur lui et à croire qu'il peut faire des choses extraordinaires. Et en vivant ainsi par la foi, nous serons de bons intercesseurs, des gens qui prient avec foi et nous allons faire des exploits. Parce que le Seigneur veut faire des exploits. Il est dit dans Jean 15, il dit que mon Père veut que vous portiez du fruit. Et il le dit aussi dans Jean 14, il dit que ceux qui croient en lui feront de plus grandes choses. Donc lui, c'est son désir, mais il ne peut pas faire ça sans la foi. Alors il est obligé de déranger notre vie afin que nous soyons obligés de recourir à la foi. Et quand nous sommes des, nous devenons des gens de foi, nous pouvons honorer Jean 14 et Jean 15, porter du fruit, Jean 14, faire des exploits. Dieu veut être honoré de voir que c'est les exploits, c'est nous qui les faisons. Lui, il peut le faire directement, mais il veut que ça passe par nous pour qu'il dise, voilà mes enfants, ils sont à mon image, vraiment. C'est ça, bien-aimé. Mais pour cela, il faut la foi. Et pour produire cette foi, il faut le dérangement. Et Dieu va nous déranger, bien-aimé. Attendons-nous à cela. Je recommence. La première raison, afin qu'on apprenne qu'il est souverain, c'est lui le chef. Ce n'est pas nous, à nous de piloter les choses. Ça doit se passer comme ça, ça doit se passer. D'accord, ça doit se passer comme ça, mais Dieu va créer un dérangement pour te prouver que c'est lui le chef après tout. Ce n'est pas toi. Même si il t'a mis là pour que ça se passe ainsi, ben, ça ne s'est pas passé comme cela, accepte quand même. Bien-aimé, Jésus-Christ a accepté de côtoyer un mauvais pendant 3 ans et demi. On vient de lire dans Jean 6. Il savait dès le commencement que Judas était un mauvais. Mais par obéissance à son père, il a vécu avec lui comme trésorier pendant 3 ans et demi. Vous confiez l'argent à quelqu'un que vous savez qu'il est mauvais, un voleur. Mais il devait accepter cette situation parce que c'était une situation qui créait toujours la foi de savoir que Dieu va gérer toujours l'argent, même si c'est entre les mains d'un mauvais. Dieu va nous déranger, bien-aimés. Il va nous mettre un président, il va nous mettre un chef qui va nous déranger afin qu'on apprenne à compter sur lui, afin qu'on apprenne que c'est lui le véritable chef. Et il va nous déranger afin de casser l'esprit de planification humaine, l'esprit de contrôle humain. Et troisièmement, il va nous déranger pour susciter la foi. Acceptons ces dérangements-là. Et nous allons vraiment entrer dans la gloire de Dieu. Beaucoup de gens, les choses nous résistent beaucoup, souvent, parce que nous-mêmes nous résistons à Dieu. Puisque nous résistons à Dieu, les choses aussi vont nous résister. Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, « Nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera parfaite. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si l'Église obéit parfaitement à Dieu, l'Église pourra gérer tout, quoi. Elle peut punir toute désobéissance. Elle a l'autorité grandie. Beaucoup de choses nous résistent parce que nous-mêmes nous résistons à Dieu. Soumettons-nous au Seigneur. Quand il y a les contrariétés, les dérangements, quelqu'un va dire, mais c'est le diable. Oui, mais le diable ne peut rien faire si Dieu ne l'autorise. Si tu es un vrai enfant de Dieu, ce qui t'arrive, même si ça vient du diable, tu dois commencer par bénir le Seigneur et ensuite chercher l'explication, qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre. Ne commence pas par bouder, ne commence pas par chercher le téléphone du pasteur pour te plaindre. Commence d'abord par bénir le Seigneur, dire « Ah, Seigneur, je sais que tout concourt à mon bien. » Je croyais que l'examen de cette maladie, par rapport à cette maladie, serait négatif, c'est positif. Bon, je sais que Seigneur, tu veux m'amener à l'hôpital en retraite. J'ai trop bougé ces derniers temps. Voilà, c'est pas grave. Donc le Seigneur, il sait ce qu'il fait, bien-aimé. Nous devons, nous, comprendre ces choses-là, que Dieu est Dieu, il ne se trompe jamais. Et je vais donner quelques cas qui peuvent arriver dans nos vies. Il y a des épreuves qu'on qualifie de sans fin. On a l'impression que ça dure trop longtemps. Ça dure trop longtemps. Eh bien, ça fait partie des choses qui nous dérangent. Maintenant, le trop longtemps là, bien-aimé, c'est par rapport à qui et à quoi? Voilà la question qu'on peut se poser. Il y en a qui disent, oh, ça fait longtemps que j'attends le mariage. Maintenant, tu as calculé ce longtemps-là par rapport à qui? Par rapport à certaines personnes que tu vois. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on t'amène Job, on dit, bon, est-ce que tu peux te comparer à Job? Donc là, c'est la défaite. Bon, donc laisse tomber, donc ce n'est pas encore trop longtemps, bien-aimé. Donc nous devons savoir que nos comparaisons sont fausses parce qu'on se compare pas réellement bien. On choisit quelques cas positifs pour se sentir inférieur et dire à Dieu, tu ne fais pas pour moi. Non, bien-aimé. Si nous sommes honnêtes, prenons tous les cas. Nous allons bien nous taire tranquillement, quoi. Parce que on vous présentera. Vous savez, il y a quelqu'un, un homme qui n'a ni bras, ni jambes. Je crois que vous l'avez déjà vu. Hein. Ni bras, ni jambes. Mais il est chrétien. Et il aime beaucoup Dieu. Donc on le porte pour tout. Bon, maintenant toi, tu vas dire quoi? Ton cas est pire que le cas de cet homme. Ah, bah, c'est la défaite, tu as perdu le match. Donc humilie-toi seulement. Oh, l'épreuve est sans fin, mais ça continue. Il y a des moments où on se dit, ça y est. Là maintenant, c'est réglé. Ça fait un moment, pendant 2 mois, bon. Pendant 2 mois, ben, on ne se dispute pas. Pendant 2 mois, il ne se fâche pas, elle ne se fâche pas. Ça fait 2 mois, les choses se sont calmées. Parfois même à l'église, les gens m'ont dit, mais pasteur, mais ça ne va jamais finir. Oui, mais ça ne va jamais finir. Dieu va nous déranger toujours pour nous apprendre à nous humilier. C'est tout. Et parfois, on est vraiment contrarié. Je pensais que c'était fini. Non. C'est déjà fini parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Mais toi, saisis qu'est-ce que Dieu veut te montrer, toi. Dieu utilise ça pour te montrer quelque chose. Vous savez, dans Juges au chapitre 3, Dieu dit quoi? Il dit qu'il y a certains peuples, pendant la conquête d'Israël à Canaan, Dieu a laissé ce peuple-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait que la deuxième génération, la génération des Juifs, des Israélites qui allaient venir après, trouve des peuples qui s'opposent à eux pour faire la guerre, afin qu'ils apprennent à faire la guerre. Parce qu'il savait que si son peuple ne faisait pas la guerre, son peuple finirait par quoi? Par faire ami-ami avec ses vrais ennemis, croyant que c'est des amis puisqu'il n'y a pas guerre. Quand il n'y a pas guerre, on finit par devenir amis. Or, Dieu ne voulait pas qu'il y ait mélange parce que son peuple allait prendre les mauvaises habitudes, les coutumes d'adoration des idoles, les coutumes des péchés acceptés dans ces peuples-là. Alors, Dieu a fait exprès que la conquête ne se fasse pas totalement. Donc, que les Josué ne gagnent pas totalement. Comme ça, le peuple qui allait naître plus tard en paix puisse trouver toujours des moments de guerre afin d'être exercé à la guerre. Voyez, bien aimé. Mais quelqu'un aurait pu dire, mais on croyait avoir conquis, c'est fini. Mais non, si c'est fini, après tu vas te reposer, tu vas oublier qu'il y a des ennemis à côté, tu vas oublier qu'il y a une vraie guerre. Alors Dieu va déranger. Tu auras l'impression que l'épreuve est sans fin. L'épreuve n'est pas sans fin. Elle est finie. Parce que si tu vois les choses en Jésus, c'est fini. Mais c'est que Dieu laisse cette épreuve parce qu'il a des objectifs dans ta vie. Mais en ce qui concerne la difficulté elle-même, elle est résolue à la croix. Jésus-Christ a crié, tout est accompli. Mais c'est toi que Dieu veut parfait. C'est toi que Dieu veut guerrier. C'est toi que Dieu veut à son image. Et il peut utiliser, il peut laisser encore des blocages pour faire que toi, tu sois toujours alerte. Et moi, je l'ai dit au Seigneur, je préfère les épreuves que le péché. Parce que je sais au moins que les épreuves vont me réveiller, me dire, ah, oh, tu vois, si tu lâches Dieu, voilà où tu vas finir. Il y a des grands lions qui cherchent à te dévorer. Il y a tel. Voilà. Donc, tu as intérêt à t'attacher à Dieu. Donc, les épreuves vont m'aider à m'attacher à Dieu. Alors que, une totale paix, une totale réussite, va faire que tu vas t'attacher à toi et à tes méthodes. Je ne veux pas ça parce que tout cela conduit au péché et à la mort. On a vu comment Salomon a fini. Salomon a fait 40 ans de paix, sans guerre. Toute une royauté sans guerre. Mais vous avez vu comment Salomon a fini. Dieu sait pourquoi il permet les guerres. Parce qu'il sait que nous, en tant qu'humains, dès qu'il n'y a pas guerre, vite, on s'associe avec les ennemis, on prend leurs coutumes et on s'éloigne de Dieu. Alors Dieu voudrait qu'on comprenne qu'il y a guerre à tout moment. Donc les épreuves sans fin, c'est faux. Elles ont une fin. La fin, c'est quand tu as compris que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et après, le reste n'est que ta formation. Et nous ne devons pas bouder. Il y en a, j'ai reçu toutes sortes de boudages. Toutes sortes. Pasteur, ça fait 3 ans. 5 ans. J'attends le mariage. 4 ans. J'attends un enfant. Dieu sait ce qu'il fait. Tout est accompli à la croix. Il sait qu'il va te donner ça aujourd'hui, tu vas t'éloigner. Il le sait. Il sait qu'il va te donner ce que tu veux, c'est toi-même qui vas te fâcher encore. Combien de fois on a vu des gens, moi surtout si tu viens te plaindre après un mariage, je vais te dire, oh mais c'est toi qui as cherché le mariage. Donc je fais partie des gens chez qui il ne faut pas se plaindre après le mariage. Je te dirai, ah mais bon, nous on était là tranquille avec toi, toi tu as cherché le mariage. Bon, maintenant, il faut laver les assiettes. Hein? Donc tu... Voilà bien-aimé, on a cherché des choses. Après, quand ça vient, oh, mais qui a cherché? Ce n'est pas toi, bien-aimé. Et Dieu nous connaît et il veut nous donner les choses au bon moment. Nous, on ne veut pas, bien-aimé. Nous, on a vu des gens qui ont prié pour la conversion de quelqu'un. La personne s'est convertie et puis celui qui a prié devient jaloux parce qu'il trouve qu'il s'est trop converti. mais finalement, il faut savoir ce que tu voulais, bien-aimé. Il faut savoir ce que tu voulais. Nous avons plein de contradictions par jalousie et par beaucoup de choses. Et Dieu, quand il fait traîner les choses, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Il veut nous travailler. Les épreuves sans fin, c'est faux. La fin, c'est à la croix. Tout est accompli. Mais c'est nous le problème. Dieu veut nous travailler. Vérifiez bien les choses, vous allez voir. Un autre problème qui nous dérange beaucoup, c'est les événements inattendus et contrariants. Des événements inattendus qu'on n'a pas prévus, ça nous dérange beaucoup. On se dit, mais comment? Et il y en a qui comparent. Moi, j'ai été fidèle, mais voilà. Ça tombe sur ma maison, ça tombe sur mes enfants. Des événements inattendus, et on ne veut pas les accepter. On ne veut pas accepter le verset « Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Et là, c'est démontré finalement que Dieu n'est pas le chef. Parce que tu ne veux pas accepter le verset qu'il a donné. Tout concourt pour ton bien. Si Dieu est le chef, quand il y a un événement inattendu, tu dis, c'est Dieu qui l'a voulu pour moi. Parce que moi, je suis à lui. Tout ce qui m'arrive, il a voulu. Donc nous devons voir la réaction de dire, merci Seigneur. Même si on est gêné. Même si le raisonnement humain, et vous allez voir, en général, nous avons une bonne réaction au début. Après, il y a le raisonnement qui te dit, mais tu vois, ça va entraîner telle chose, ça va entraîner telle chose. Ça va. Alors là, toi qui avais eu une bonne réaction au début, tu changes complètement parce que tu t'es laissé aller dans ton raisonnement. Les raisonnements sont très, très dangereux. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit dans 2 Corinthiens 10 que nous nous levons contre tout faux raisonnement, tout raisonnement qui veut empêcher la connaissance de Christ. Les raisonnements sont très, très dangereux. Le chrétien est un prophète. Le prophète, ce n'est pas une question, ce n'est pas un scribe. Ce n'est pas quelqu'un qui va mélanger beaucoup de versets raisonnés. Non, lui, il reçoit de Dieu et il dit ce qui vient de Dieu. C'est tout. C'est très simple. Et le chrétien est un prophète. Il reçoit et il pratique. Il reçoit et il parle. Quand les événements arrivent, il dit, mais c'est écrit. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, c'est tout. Mais dès que tu commences à dire, mais oui, mais il y aura telle conséquence, et puis le diable te dit, mais oui, mais Dieu a vu bien qu'il va y arriver telle chose. Pourquoi il n'a pas freiné? Tu dis, mais oui, c'est vrai. Tu as complètement oublié que Dieu est tout puissant pour changer ça. Au lieu de te saisir de la prière pour réclamer l'aide de Dieu, tu commences par condamner Dieu parce que tu as vu que les événements tels qu'ils sont venus vont déstabiliser ton programme, vont déstabiliser tes projets. Qui te dit que ça va déstabiliser tes projets? C'est parce que tu as perdu la foi en Dieu, que Dieu s'occupe de toi. Acceptons les événements inattendus, bien-aimés. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Nous sommes tous des humains, ça nous fait mal parfois quand ça arrive, mais souvenons-nous que Dieu est tout-puissant. Souvenons-nous de Job, souvenons-nous des gens qui nous ont précédés. Ils ont accepté les événements inattendus, sachant que Dieu s'occupait de leur vie. Et beaucoup d'événements inattendus sont souvent aussi contrariants. Et quand c'est contrariant comme ça, on se fâche. Ce n'est pas bon. On prouve par là qu'on est notre propre chef. Je n'ai jamais vu quelqu'un bouder parce qu'on lui a fait un rappel d'argent qu'il n'attendait pas. Il dit, bouder, mais moi j'ai reçu 5 000 euros. Je ne m'y attendais pas, ça m'énerve. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Mais pourtant, c'est inattendu. Mais maintenant, quand c'est, oh, on m'informe qu'on va me retirer 1 000 euros. Tu vois, les venir au culte, il attend seulement qu'on lui pose la question, est-ce que ça va? Donc le premier qui va tomber sur ça va recevoir sa baffe, comme si c'était lui Dieu, quoi. Non, bien-aimé. On doit, si on accepte les bonnes choses, accepter aussi les choses difficiles. C'est là qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Ils se disent, j'ai accepté les bons rappels financiers, mais je ne m'attendais pas, la CAF m'a envoyé 1 000 euros, oh là là. En tout cas, Dieu est grand, hein? Oui, mais quand on va une lettre, la CAF récupère 400 euros, là Dieu n'est plus grand. Donc il a été grand quand, bien aimé, non. Quand on te retire l'argent comme ça, tu dis, Dieu est grand. Il veut que je compte sur lui. Amen. On attend qu'on pratique ça maintenant. Amen. Il ne faut pas dire amen dans cette salle seulement. Donc il faut, quand ces événements inattendus arrivent, c'est là qu'il faut vraiment dire, bon tiens, ça s'est bien fait. Parce que là, il faut s'examiner. Là, tu te dis, c'est vrai que je commençais vraiment à m'asseoir. Parce que quand j'ai regardé, comme maintenant on a Internet, on peut regarder les comptes par Internet, tu regardes, oh, beaucoup d'argent. Dans ta poche, un peu beaucoup d'argent encore. Voiture, pas de panne. Tu commences à croire que le paradis s'est accompli. Oh, tu as oublié la Bible qui dit que le paradis, c'est le jour où on nous ressuscitera. Tu commences à croire que c'est Dieu va te dire, attends, tu vas comprendre ici, il n'y a pas le paradis. Parce que Dieu ne veut pas que tu te trompes parce que tu te feras avoir. Dérangement. Quelqu'un qui raye la voiture, tu ne l'as pas vu. Dérangement, réparation. Pourquoi? Parce que tu commences à croire que le paradis est sur terre. Dieu va nous déranger, bien-aimés. Il va créer des événements inattendus. Et puis un autre problème qu'il y a, là aussi ça fâche beaucoup, le voisinage non désiré. Des frères en Christ et des sœurs en Christ, parfois qu'on n'aime pas. Mais Dieu va les laisser là comme il faut encore. Pour que tu sois obligé de les aimer. Parce que Dieu veut que ton cœur soit pur. Nous, quand on était jeunes chrétiens, il y a des gens, surtout ceux qui portaient des lunettes, « Oh, le frère là, il est encore là. » Mais Dieu va faire qu'il soit encore toujours bien là. Parce que nous, donc, on voulait que les gens soient pas trop chrétiens. Donc, Dieu va faire qu'il soit toujours là. Quand on dit, « Ah, mais le frère là, il prie trop. » Oh, comment ça, il prie trop? Il prie Dieu, il prie trop comment? Ça te dérange quoi, en quoi qu'il prie beaucoup? Et le Seigneur va faire qu'il soit là. Ça encore, c'est les bons frères et sœurs. Maintenant, il y aura aussi des faux frères et sœurs. Mais Dieu va les laisser quand même, toujours. Mais Seigneur, tu as dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. D'accord. Mais il y a un temps que j'ai décidé où ils ne vont pas résister. Ils vont quitter. Mais pour le moment, toi, tu dois les supporter. Voilà. Parce que je veux que ton cœur aime les bons comme les mauvais. Parce que moi, j'aime les bons et les mauvais. On dit, mais on ne comprend pas. Pourtant, c'est écrit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Oui, ils finiront par lâcher. Mais il y a un temps pour tout. Bien-aimés. Donc nous devons aimer tout le monde. Les voisinages non désirés, ah, c'est un problème. Parfois, tu te retrouves dans la même équipe avec quelqu'un. Ah! Mais pourquoi le pasteur l'a mis là? Mais toi, considère pour toi que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu vois une incompatibilité, prie le Seigneur. Ton Dieu est tout puissant pour changer les choses si ce n'est pas de lui. Compte beaucoup plus sur ta foi que sur la procédure des humains. Ce n'est pas parce que ton patron t'a mis un collègue nouveau que tu dois être dérangé. Toi, compte sur la puissance de Dieu. Acceptons les voisinages non désirés. Que ce soit dans nos maisons, là où on habite. On va te mettre des voisins non désirés. Peut-être Dieu les a approchés là pour que tu pries pour eux pour qu'ils soient sauvés. Toi, tu es pressé de prier. Le feu va les chasser. Oh, mais Dieu lui veut sauver les humains. Toi, tu veux leur envoyer le feu. Je vais intercéder chaque nuit, le feu de Dieu va les chasser. C'est comme au Congo, les gens, ils prient dans un appartement et, tu es voisin, il dérange toute la nuit et quand tu viens te plaindre, les feux l'a dérangé. Puisque vous priez, vous devez déranger tout le monde maintenant. Donc si quelqu'un vous dit vous dérangez, ça c'est le feu de Dieu. Il est dans la magie, cet homme-là. Oh. Donc vous vous permettez de déranger les gens sous prétexte que vous avez le feu. Non, bien-aimé, Dieu veut sauver. Donc on ne tient même plus compte de l'amour de Dieu. On est là à refuser les voisinages. Non. Si Dieu permet qu'il y ait quelqu'un de mauvais à côté de toi, parce que Dieu veut le sauver. Et surtout, un des grands voisinages les plus compliqués, c'est mari ou femme. Ah là, c'est toute la vie. Tu dis, aïe, je suis obligé d'accepter ça toute la vie. Et on commence à chercher des versets qui peuvent nous sortir de l'affaire. Mais tu reviens chez moi, je dis, non, il n'y a pas de verset qui nous sort de l'affaire. Le seul verset qui peut t'aider, c'est aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on te rejette? Non. Alors, tu ne dois pas rejeter l'autre. C'est ça, bien-aimé. On commence à chercher des raisons. Parce que c'est un voisinage non désiré. Nous devons accepter les voisinages indésirables. Parce que Dieu veut transformer le mal en bien. C'est là la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas lorsque tout va bien. Il veut changer ce qui est mal en bien. Il veut changer la femme, changer le mari, changer les enfants. Toi, si tu es dans un voisinage indésirable, c'est pour toi l'occasion de démontrer la puissance de Dieu. À travers la bonté, l'amour, la prière, tu dis, ce n'est pas Satan qui va vaincre ici, c'est l'Éternel qui va vaincre. Amen. Tu pries, ça ne marche pas, tu jeûnes. Et Dieu t'écoute. Ça semble continuer, tu dis, c'est ma vie maintenant que je vais donner. Je vais être encore plus bon qu'avant. C'est ça, bien-aimé. Je vais être plus bon qu'avant encore. Il faut passer par tout ça. Il faut vraiment vouloir être comme Dieu veut, quoi. Moi, je prie. Je vois que, bon, il n'y a pas encore de conversion. Je dis, bon, je vais commencer à dire bonjour à tous les voisins. Très bien comme il faut. C'est ça, bien-aimé. Je vais être encore plus bon qu'avant. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, il est trop mauvais. On dit la parole, mais quand même. Non, il n'y a pas de quand même. On a signé le contrat d'être comme Jésus. Soyons comme Jésus-Christ. Acceptons le mari, la femme, jusqu'au bout, parce qu'on croit à la puissance de Dieu. Mais notre problème, c'est qu'on fait toujours ça, en dents de scie, et on ne voit pas la gloire de Dieu. Si on prenait un chemin une fois pour toutes, une direction une fois pour toutes, on verrait la gloire de Dieu. Les choses se décanteraient, on glorifierait le Seigneur. Mais on ne peut pas glorifier le Seigneur parce qu'il y a des moments où on récupère nous-mêmes notre pouvoir et on laisse Dieu de côté. On fait comme on veut, ça ne marche pas, on revient encore à Dieu. Ça ne marche, et voilà, ça traîne, on prend encore notre pouvoir. Ça ne marche pas, on revient encore à Dieu. Et la chose traîne, et puis on dit que c'est une épreuve sans fin. Non, c'est toi-même qui ne respectes pas, tu ne te soumets pas à Dieu. Tu ne prends pas une direction une fois pour toutes. C'est pourquoi ça ne marche pas non plus. Bien-aimé, nous devons accepter aussi les missions amères. Dieu va nous donner des missions parfois qui sont amères. Te dis, bon, va aller demander pardon à tel endroit. Ah! Mais c'est lui qui a commencé. Dieu dit, mais c'est à toi de demander pardon. Et Dieu peut te dire, bon, vous avez réunion pour discuter de telle chose. Bon, accepte seulement que tu as tort. Mais non! Non, c'est pas... Et là, on commence à justifier. Ça a commencé comme ça. Dieu dit non. Toi, fais que ce soit toi qui sois considéré comme fautif. Ah, mais bien-aimé, c'est des missions très difficiles. Ou tais-toi seulement. Tu te laisses massacrer et tu te tais. Parce que le Seigneur t'a dit de te taire. C'est des missions compliquées. Il faut les accepter. Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Et Dieu peut t'envoyer dans un pays. Moi, quand j'étais au Maroc, mon désir, c'était d'aller dans un pays anglophone. Je disais, pas de pays francophone, surtout pas. Mais ce que j'ai fouillé, eh bien, c'est là que Dieu t'envoie encore très bien comme il faut, quoi. Bien-aimés, on doit accepter les missions, même si elles sont amères. Voilà. Aller avec, discuter avec des gens qui se moquent de Dieu. Dieu te dit, mais va leur parler de moi. Déjà, tu te rappelles tout ce qu'ils ont sorti contre Dieu. Ça t'énerve déjà à l'avance. Dieu veut encore que tu ailles parler avec ces gens-là. Ben oui. C'est Dieu qui commande. Nous devons dire, bon, le Seigneur le veut, j'y vais. Nous devons accepter les missions amères. Nous devons, bien aimés, laisser Dieu décider ce qu'il veut pour son œuvre. Donc tout ce qui peut nous contrarier, nous devons considérer que Dieu l'a voulu et nous, nous devons seulement obéir. Il y a plusieurs cas que je peux citer, mais nous tous, nous comprenons à peu près ce que j'ai voulu dire. Les exemples sont dans la parole de Dieu. Paul qui a eu une écharde pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il y a plein d'exemples dans la parole qui montrent que Dieu a toujours dérangé afin que son peuple reste pur et son peuple grandisse encore plus en amour. Il a toujours dérangé. Et quand il y a les dérangements, ne cherchons pas à ce que ces dérangements s'éloignent. Cherchons à comprendre quelle vérité Dieu nous amène, quelle transformation il veut voir dans nos vies. Ne soyons pas pressés de voir les dérangements s'éloigner. Soyons plutôt pressés de comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu. Parfois, il y a des dérangements qui viendront de la Bible. Tu lis un verset, tu dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Il y a des gens qui lisent la Bible, il y a un verset qui dit, Dieu a demandé à Saül de tuer femmes, enfants, moutons, tous les êtres vivants. Mais non, mais quand même, Dieu ne peut pas donner des ordres comme ça. Voilà. Et c'est fait exprès pour que tu cherches pourquoi il a demandé ça. Et si tu es humble, tu vas venir demander aux aînés, mais pourquoi Dieu a-t-il donné un tel ordre? Et ils vont t'expliquer. Mais si tu es orgueilleux, tu dis, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses compliquées dans la Bible. Hein? Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Ah, c'est fini, tu t'égares. Certains versets vont nous perturber. Soyons humbles pour dire, Dieu, explique-moi. La vérité va nous déranger. Moi, vous savez, qu'est-ce que j'ai subi en tant que pasteur? Dès que je prêche, eh bien, ou je conseille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont contents. Ah, notre pasteur est dans la vérité. Mais un jour, c'est lui que je vais conseiller. Donc, parce que quand je conseille les autres, il est content. Quand je prêche et que ça concerne les autres, il est content. Un jour, ça va le concerner lui-même. Un jour, le conseil que je vais donner va le concerner lui-même. Bien aimé, c'est là que vous allez voir la même personne qui faisait la propagande, le pasteur est dans la vérité. La même personne va commencer à dire, ah, là, il manque d'amour, là. Non, parce que ça le concerne lui. La vérité finit toujours un jour par déranger. Et on doit accepter ça. On ne doit pas personnaliser les choses. On doit se poser la question suivante. Est-ce que ce qu'il dit est dans la Bible? Si c'est oui, ah bon, je vais céder. Voilà. Même si c'est un grand voleur qui vient te dire, là tu voles une banane, c'est mauvais. Tu ne vas pas lui dire, mais toi tu es un grand voleur, tu voles dans les casinos. Non. Ce qu'il dit est vrai ou pas? C'est vrai. Alors, humilie-toi. Alors les gens sont très forts. Quand le pasteur prêche quelque chose qui touche les autres. Ah voilà, le frère a bien entendu là. En plus, il est venu seulement aujourd'hui. Dieu fait bien les choses. Voilà. Mais maintenant, un jour, ça va le toucher lui. Ah, oh, mais quand même, le pasteur, sûrement, on lui a raconté. Bien-aimé, c'est ce que nous vivons. On n'accepte pas la vérité. Même si on lui a raconté, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? C'est vrai. C'est écrit ou pas? C'est écrit, bon. Que ce soit un complot du pasteur ou pas, mais ce qu'il dit est vrai. Accepte la vérité. Pourquoi tu veux compliquer? Parce que tu ne veux pas être contrarié, bien-aimé. Il y en a des que tu conseilles, parce que toi, tu n'as pas encore des enfants. Oh. Ce que j'ai dit est vrai ou pas? C'est vrai. Tu vas donner des conseils? Ah non, parce que toi, tu es déjà vieux. ce que j'ai dit est vrai ou pas. Tu vas donner des conseils, tu vas dire des vérités. Non, lui, il est encore un jeune pasteur. Bon. D'un côté, on l'appelle vieux, de l'autre côté, on l'appelle... Maintenant, on ne sait plus ce qu'on est, est-ce qu'on est vieux. On est... Parce que quand tu te donnes des conseils à des gens, ils te disent, toi, tu es encore jeune, tu as encore la force. Bon. Tu vas ici, tu donnes des conseils. Non, c'est parce que toi, tu es déjà vieux. Ah bon, finalement, tout ça, c'est parce que les gens fuient la vérité. Nous devons accepter toute la vérité. Elle peut être blessante au début pour nous guérir totalement, comme quand quelqu'un est opéré. Amen. Vraiment que Dieu nous aide à dire la réponse suivante. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vérité. Si tu refuses l'enseignement de Dieu, c'est pour aller où? Pierre était déstabilisé. Les apôtres étaient déstabilisés par ce que Jésus venait de dire. Il faut me manger. Il faut boire mon sang. C'est des termes clairs. Manger la chair. Au cas où tu as fait une confusion, une hésitation, dire c'est une image, il rajoute boire mon sang. Aïe, là, les gens ont dit c'est un fou. Il est devenu fou. Pierre a dit, nous on sait que tu es le Messie. On le sait. On sait que tu es Dieu. Dieu va faire en sorte que notre foi dépende de lui, se repose sur lui. On n'a pas trop compris, on dit, mais non, je sais que Dieu est bon parce qu'il a voulu que son fils meure pour moi. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais le fils de Dieu est mort pour moi. C'est que Dieu veut de bonnes choses pour moi. Amen. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, c'est très dur ce qui m'arrive, mais Dieu est bon pour moi parce que son fils est mort pour moi. Ça, je le sais. Puisque ça, je le sais, je ne peux pas permettre que les choses compliquées me volent ce qui est essentiel, c'est que Christ est mort pour moi à la croix. Et donc, je suis dans la victoire. Bien-aimé, peu importe les choses telles qu'elles nous dépassent, où irions-nous? Revenons tranquillement près de Dieu, dire Seigneur, libère, Seigneur, délivre, Seigneur, sauve, Seigneur, soutiens, Seigneur, fais quelque chose. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon d'avoir mal pris les événements contrariants, inattendus. Nous te demandons pardon d'avoir boudé en entendant certaines vérités, Seigneur. Nous te demandons pardon d'avoir crié contre toi dans nos cœurs lorsqu'on a vu des injustices. Nous te demandons pardon de nous être énervés contre des humains. Or, nous n'avons pas à combattre les humains, nous avons à combattre des mauvais esprits qui animent les humains. Nous te demandons pardon d'avoir refusé les missions que tu nous as confiées parce qu'elles étaient des missions amères. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre encore à toi aujourd'hui. Nous soumettre totalement à toi, Seigneur. Reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Que notre foi repose que sur toi, Seigneur. Que tu sois notre force, que nos raisonnements ne prennent pas les dessus sur ce que tu es pour nous, Seigneur. Sur ce que tu es pour nous. Tu es pour nous le grand Dieu sauveur, Père éternel, Adonai, le roi des rois. Et c'est vrai que dans nos limitations, nous avons tendance à te croire limité et à te juger à notre niveau. Mais il est écrit dans Romains 11, qui a été ton conseiller, qui t'a donné en premier pour demander des comptes. Aide-nous à nous humilier, à nous laisser porter par toi. Chaque jour, afin que nous vivions dans la gloire. Aide-nous à saisir les enseignements liés aux événements qui ne nous plaisent pas. Liés aux circonstances qui ne nous plaisent pas. Tout en cherchant toujours à faire ce qu'il faut pour que le meilleur se fasse. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à imiter Jésus, ton fils, qui à un certain moment a été perturbé par la méchanceté des humains, mais qui est parti jusqu'au bout de son sacrifice pour leur salut. Merci Seigneur de nous aider à être humbles. À toi la gloire, la louange, car de l'humilité viendra la gloire, viendra la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.